Le dernier jour du mois de la résurrection, du mois de la Pâque, après le mois de mars, c'est le mois d'avril, après Saint-Joseph, c'est le mois de Saint-Joseph, c'est le mois de mars, le mois de Marie, c'est le mois de mai. Et coincé entre les deux, il y a le mois de la Pâque, la Sainte Famille, ce qui appartient à la Sainte Famille. Si tu ouvres le voile qui est dedans, tu peux voir ce qui se passe dans la mort et la résurrection du Christ. 30 jours. Le chiffre 30 désigne en mystique, en théologie mystique, en théologie, l'amour qui s'efface. L'amour, la très sainte Trinité s'efface dans une humilité pour faire surgir dans cette contemplation de son propre effacement, ce qui est au-delà du voile de ce dépassement. C'est la Sainte Famille, 3, 0, et pendant 30 ans. Pendant 30 ans, ils ont vécu à Nazareth, en Égypte, pendant 30 ans ensemble, les trois, jusqu'à la dormition de Saint-Joseph. Et on vient de passer... quand ces 30 jours culminent dans ce... dans cette surabondance, dans sa plénitude, dans ce qu'elle signifie en fait. Alors le voile peut se déchirer. Les sceaux, les secrets de la mort et la résurrection du Christ peuvent se révéler. Et du coup, la nourriture, et l'attraction véhémente de Dieu peut se déverser en nous. Et nous pouvons aussi être aspirés à l'intérieur de Dieu à travers cette porte ouverte, ce voile qui se déchire. Comme dit le psaume 90, nous avons échappé au filet du chasseur. Le voile s'est déchiré. Les portes sont ouvertes de la révélation, de la révélation. Et demain, ça nous ouvre sur le mois de Marie. Le mois de Marie, qu'est-ce qui ouvre les portes du mois de Marie? C'est la transformation de Saint-Joseph, le principe de la transformation de la matière. La matière, elle est créée par Dieu dans le Bereshit, c'est-à-dire dans le principe de la création. Avant que toute chose n'existe, il s'assume, le Verbe de Dieu, l'Esprit s'assume, dans la lumière, la matière. Et du coup, il émane de cette création, de ce principe du Créateur. C'est les trois qui sont créateurs, Père, Fils et Saint-Esprit. Et l'unité des trois qui est créatrice. Mais comme c'est dans la lumière, c'est la lumière qui assume la matière. Et la matière n'existe pas corporellement. La matière existe dans le Bereshit. La matière, c'est tout ce qui est dans tout ce qui est en puissance à revêtir une forme de lumière à partir de Dieu. Toutes les formes possibles de l'existence, de l'intérieur de Dieu, de la liberté créatrice de Dieu. Et cette matière va être transformée puisque Dieu va créer la lumière, un monde angélique, le premier jour, et puis il va créer le sixième jour l'homme, la femme, et l'unité des deux. La matière va devenir vivante dans la Sainte Famille. Et cette matière va surabonder dans le travail de Dieu, septième jour. Et le travail de Dieu se réalise dans un grand principe, c'est la surabondance de la matière créée dans le principe. Et Saint Joseph, c'est le signe incarné, l'incarnation de cette matière transformée en toute capacité d'être transformé divinement jusque dans le monde intérieur de Dieu, dans le monde incréé de Dieu. Et le mois de Marie s'ouvre avec ça, parce que c'est vrai que dans le principe, Saint Joseph, c'est le signe, c'est le sacrement, la présence réelle de la grâce qui permet la transformation de la matière. Le travail, c'est la transformation de la matière. C'est ce que le pape Jean-Paul II avait dit quand il était venu à Saint-Denis pour la fête, le 1er mai, Paris, Saint-Denis. Il y avait tous les travailleurs, tous les... C'est la fête des travailleurs, du prolétariat. Il avait dit, en accueillant tous les travailleurs, tous les syndicats, tous les... Il avait dit, le secret de la transformation de la matière, c'est que la matière devient absolument parfaite. C'est l'Immaculée Conception, le secret de votre combat de travailleur. Jamais n'avoir entendu un discours pareil. Je me rappelle que tous ces jeunes qui faisaient partie de la JOC, des partis communistes chrétiens, etc., couraient de tous les côtés. On n'a jamais entendu une chose pareille. Il y a eu en même temps une Pentecôte quand il a dit ça. C'est sûr. Et des portes sont ouvertes. Le pape a ouvert les portes dans l'Eucharistie. Le pape a ouvert les portes pour que l'Immaculée Conception se déploie. Dans sa fécondité à l'intérieur de celui qui en est le principe en elle. Dans l'au-delà de l'unité des deux. Dans l'effacement. Et ça, c'est notre nourriture, parce que il a, comme dit le pape Jean-Paul II dans son encyclique sur Saint-Joseph, quand Dieu a vu cela pénétrer à l'intérieur de lui par la foi, par l'espérance accomplie, par la charité, d'un mariage spirituel parfait, il l'a vu, que ça pénétrait en lui. Il l'a assumé, et ici est introduit. Il est venu descendre sur cet autel. Il est venu se nourrir et nourrir ce qui appartient à la Sainte Famille dans ce qui est en affinité en elle avec la très sainte Trinité, avec l'amour éternel de Dieu, qui est spiration, l'aspiration incréée de Dieu, qui sont trois, l'aspiration active de l'époux, l'aspiration active de l'épousée, deuxième personne de la très sainte Trinité, l'aspiration passive et substantielle éternelle incréée qui est le Saint-Esprit, les trois en un, on peut être la nourriture de ce qui appartient à l'unité sponsale de Marie et Joseph. Et du coup, le Verbe de Dieu, Dieu, dans sa lumière créatrice, a pu venir s'introduire en l'assumant, c'est-à-dire en s'en nourrissant, et en étant la nourriture de cette unité sponsale de Marie et Joseph, dans la perfection qu'il a à l'heure, puisqu'elle est assumée en Dieu, dans le fiat de Marie, la supervenue du Saint-Esprit, l'obombration du Père et la conception de la matière parfaite, c'est ça. Et ça, nous nous nourrissons de cela, lorsque, étant créé par Dieu dans la conception, nous nous nourrissons de cela. Nous nous nourrissons de Dieu lui-même, descendu sur la terre. C'est la nourriture de Dieu, c'est notre nourriture. Et on est tous, tous les deux, tous les trois rassasiés dans l'un, dans l'unité profonde de la conception. C'est ça le Saint des Saints et l'autel. Le Saint des Saints, la présence vivante et gratuite de Dieu est impensable. Si on ne pénètre pas, j'allais dire, physiquement, corporellement, spirituellement, surnaturellement. Dans la Sainte Famille. Dans ce qui appartient éternellement et glorieusement à la Sainte Famille. Voilà, et c'est ça l'évangile d'aujourd'hui. Personne, l'évangile d'aujourd'hui, personne ne vient à moi si mon Père ne l'attire pas. Tous ceux qui viennent à Jésus ne savent pas tout attirer. C'est Dieu le Père qui est là parce que Jésus c'est la manifestation et la splendeur éternelle de la manifestation du Père, c'est la présence réelle de la manifestation. Toute sa splendeur de Dieu le Père. Alors si on va vers Jésus, c'est que c'est le Père qui nous a choisis, qui nous attire, qui nous aspire, qui nous appelle. Personne ne va vers moi si c'est pas le Père qui le spire, qui l'aspire, qui l'aspire en l'arrachant, qui l'aspire à ce monde cosmique. Il l'arrache à ce monde cosmique, il l'aspire. À l'intérieur de ce qui fait la nourriture de Dieu. Alors nous allons lire l'Apocalypse parce que c'est ce que nous faisons, hein, nous essayons de nous associer à ce que l'Église nous donne aujourd'hui pour arriver à ce terme et à cette entrée à l'intérieur de la transformation. De la transformation parfaite, la transformation ultime, la transformation d'amour, la transformation de gloire, qui est celle de l'Église, de la Jérusalem dernière, que Dieu veut voir l'Église se déployer dans la Jérusalem dernière, qu'elle est, dans le temps de la terre, et c'est ça les secrets de l'Apocalypse, alors nous lisons ça. Aujourd'hui, en matine, l'Église nous a fait lire le chapitre, la fin du chapitre 9. Alors, nous lisons, c'est le sixième ange, le sixième messager, c'est la sixième trompette. Le sixième ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix qui venait des quatre cornes de l'autel d'or qui est face à face avec Dieu. Cette voix disait au sixième messager qui avait la trompette, libère les quatre messagers qui sont enchaînés au bord de l'Euphrate, le grand fleuve. Alors, Ce fut la libération des quatre anges messagers qui étaient prêts pour cette heure-là. Ce jour, ce mois, cette année, afin d'anéantir le tiers de l'humanité, des troupes de cavalerie comptaient 2 myriades de myriades. Ce nombre, je l'ai entendu. Et ainsi, dans ma vision, j'ai vu les chevaux et ceux qui montaient les chevaux. Ils ont des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux sont comme des têtes de lion. Les faces de ces chevaux sont comme des faces de lion. De leur bouche sortent du feu et de la fumée et du soufre. Le tiers de l'humanité fut tué par ces 3 fléaux, feu, fumée et le soufre qui sortait de leur bouche. Ceux qui n'ont pas été tués par ces fléaux ne se sont pas convertis. Ils n'ont pas renoncé aux œuvres de leurs mains. Ils n'ont pas cessé de se prosterner devant les démons, les idoles d'or, d'argent, de bronze, de pierre, de bois, qui ne peuvent pas ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se sont pas convertis. Ils n'ont pas renoncé ni à leur meurtre, ni à leur sortilège, ni à leur débauche, ni à leur vol. C'est vraiment le 30 de ce mois, le jour, le mois, l'année. On doit se déployer. La grâce dans l'église de la terre. C'est un messager qui est donné à la terre. Et cette voix, elle vient des 4 cornes de l'autel d'or. C'est l'autel d'or qui est face à face avec Dieu. Quand le prêtre il dit la messe, il dit Seigneur, Munde ekper jube ekper feri permanus sancti angelitui. In sublime altare tuum. Que cette offrande est apportée par ton ange. Sur ton autel sublime, divin céleste. C'est cet autel-là, cet autel qui est en face, dans le face-à-face du Verbe de Dieu épousé vis-à-vis de son époux. Et cet autel est un autel en or, fabriqué avec la charité incarnée. Et les 4 cornes de l'autel, on le sait, c'est les 4 incarnations de la charité à l'état pur. Dans le monde incréé de Dieu, face à face, dans la vision béatifique, on sait très bien quelles sont ses forces, quelles sont ses puissances. L'autel, c'est Marie, le cœur immaculé de Marie, le cœur immaculé de Jésus, le cœur immaculé de Joseph, le cœur immaculé et glorieux du sacerdoce johannique. Ils sont 4 ressuscités, les 4 ensemble fondus en une seule, amour incarné de résurrection. C'est ça l'autel. Quand on célèbre la messe, c'est sur cet autel-là que Dieu descend pour se faire nourriture dans le monde de la résurrection et dans le monde incréé de la paternité des époux. Et par débordement, il s'actualise devant nous dans la messe. L'hostie qui prend son visage réel. Nul ne vient à moi si mon Père ne l'attire. Alors, si on est attiré vers ce 6e trompette de l'Apocalypse, au jour d'aujourd'hui, au mois d'aujourd'hui, dans l'année d'aujourd'hui, à l'église de la terre. Alors on est emporté, comme Philippe dans l'acte des apôtres, est emporté par l'ange, par ce message. Il est emporté. Et il court à côté du char glorieux de celui qui distribue tous les trésors du ciel, de la reine, du ciel et de la terre. Et il voit qu'il n'y a aucune descendance pour le serviteur souffrant dans le prophète Isaïe. Aucune descendance sur la terre. Sa descendance, c'est une fécondité qui engendre dans les cieux le monde de la résurrection, de la gloire, et le monde de ce qui nourrit vraiment, et à la fois les personnes divines, et à la fois des personnes, toute la création glorifiée. L'unique nourriture, c'est l'agneau. L'autel qui est révélé aujourd'hui, dévoilé, si je puis dire, c'est le cœur immaculé de Marie. C'est quand Dieu est venu s'inscrire pour s'offrir et se donner en nourriture. Il s'est incarné dans ce qui appartenait à son unité sponsale avec Joseph, mais l'autel, c'est le cœur immaculé de Marie. C'est le règne du Sacré-Cœur. Et le règne du Sacré-Cœur, ben, se manifeste comme ça, par un message qui nous emporte dans une attraction véhémente à l'intérieur de cet autel, pour que nous puissions participer, ouvrir la bouche, ouvre largement la bouche, psaume 80, et moi je l'emplirai, la fleur du froment. Et la participation à l'autel devient nourriture en même temps que le Verbe de Dieu est nourriture, en même temps que le pain de la vie est nourriture. Et nous portons à ce moment-là, dans l'Eucharistie, cette présence réelle là. Alors à ce moment-là, c'est de myriades, c'est le Verbe de Dieu, dans les myriades de myriades, qui porte la grâce capitale de Christ avec lui. Les chevaux. Alors c'est le feu, c'est la gloire qui sort de leur bouche. C'est l'hyacinthe. Le feu de la Pentecôte dernière. Le feu, c'est le déploiement agréé de la troisième personne de la très sainte Trinité. La gloire, la fumée, c'est une gloire, elle est bleue, quoi. Un bleu mystique, céleste, pur. Et l'hyacinthe, ça représente, le côté incarné, quoi. L'hyacinthe, c'est une pierre très très transparente, mais en même temps très dense, d'un bleu pur, qui représente, on le sait très bien, représente Saint-Joseph. Joseph, Marie, et le feu du Saint-Esprit au milieu d'eux, c'est ça qui sort de la bouche de ceux qui ont la grâce capitale, la sixième trompette. Ils en reçoivent, ils en produisent leur fruit, et ce fruit, eh bien, il souffle partout. Dans l'autel de la résurrection. C'est le nouveau Saint des Saints, et le Saint des Saints, à ce moment-là, la paternité créatrice de Dieu, l'amour inconditionnel de Dieu le Père pour tout ce qui existe, trouve son rassasiement. Et tout ce qui est humain en nous, qui ne vit pas ça, est tué. Un tiers des hommes. Et c'est pour ça que le côté psychique, le côté terrestre de notre vie est anéanti grâce à Dieu. Oh, c'est une purification extraordinaire et étonnante. Mais le corps originel, le Saint des Saints, le corps spirituel reçu, engendré dans le temps de la terre, la Jérusalem nouvelle, ne sont pas tués du tout. ces deux-là, non. Mais le troisième, oui, le corps spirituel, le corps psychique, pardon, le corps métapsychique, le corps cosmique. C'est un aspect seulement du corps physique. Mais le corps physique, il est bien physique. Touchez bien ma chair. Touchez bien ma chair. Et voyez que ma chair se nourrit. C'est bien moi. Le corps originel, c'est le corps de l'homme, le corps spirituel, engendré par la Sainte Famille en nous, dans la transformation des mariages spirituels, comme fruit de l'Eucharistie, et effet de l'Eucharistie dans sa fécondité, sa efficacité sublime, dans notre chair, produit des cellules qui viennent. La fécondité, c'est ce que dit Philippe et Isaïe le prophète, à celui qui distribue tous les trésors de la reine. Il dit non, il n'y a pas de fécondité sur la terre, c'est une fécondité dans le corps spirituel, c'est une fécondité dans la résurrection, c'est une fécondité, mais dès cette terre, dès cette terre. Et je rappelle la foi, puisque c'est encore le mois de la résurrection, le mois de la Pâque. Et oui, c'est vrai, c'est pas un dogme que Joseph et Jésus soient ressuscités d'entre les morts. Mais quand même, c'est la pensée de l'Église. Et pareil pour Saint Jean. On a constaté quand même, et ça c'est un fait, et on le constate encore aujourd'hui, qu'on trouve le tombeau de David, qu'on trouve le tombeau d'Abraham, qu'on trouve le tombeau de tous les grands. Moi j'ai été les visiter, c'est bon, ces tombeaux. Mais le tombeau de Jésus, il est ouvert, et il est vide, et il fait émaner le feu agréé de Dieu. Et le tombeau de Joseph à Nazareth, comme j'ai été impressionné la première fois que je l'ai vu. Ça faisait 2000 ans, quoi, enfin, plus, presque 2000 ans. C'est un tombeau blanc, pur. C'est une blancheur. Mais vraiment incroyable, les escaliers qui descendent. Une blancheur. Et il est ouvert. On appelle ça le tombeau du juste à Nazareth. Et depuis 2000 ans, les gens, d'après les traditions orales, et la pensée de l'Église, c'est le tombeau du juste, c'est le tombeau de Joseph. Il est vide. Il a toujours été vide. Il a toujours resté vide. Et l'Évangile même le dit, quand Jésus est mort, il y a eu un tremblement de terre, un tel puissant que la roche s'est déchirée en deux, sur des centaines de mètres de profondeur. Ça ne devait pas être un petit tremblement de terre en pleine nuit. Et à ce moment-là, le tombeau du juste s'est ouvert. À cette heure-là. À cet instant-là. Nazareth. Il a découvert, il a dévoilé la résurrection. Non pas la résurrection, mais la dormition. Que le corps de Joseph était totalement incorrompu. Il était en dormition. En attente de la vision béatifique. Et c'est seulement le troisième jour, que quand Jésus ressuscite d'entre les morts, il y a un autre, mais cette fois-ci méga tremblement de terre. Il y avait sauté les portes du tombeau. Et à ce moment-là, l'Évangile dit, et il le dit bien, que le tombeau du juste, le juste, alors évidemment, c'est en grec, alors tu mets un petit tréma, tu ne mets pas, c'est le juste ou bien les justes, ressuscitèrent, et Jésus. Moi, j'aime bien cette interprétation que le juste Saint-Joseph à Nazareth, qui est resté dans la mission, s'est levé, qu'il est ressuscité, qu'il a laissé le tombeau vide. Et là, il n'y avait pas de sueur. C'est une nécessité. Il y a un lien de nécessité entre la résurrection de Jésus et la résurrection dans le même instant de Saint-Joseph. Parce qu'il y a une indispensable à assumer. Parce que quand Dieu assume en Marie son incarnation, tout ce qui appartient en elle à son unité spéciale avec Saint-Joseph, il y a des cellules, son corps originel à Marie. Elle est liée à son unité spéciale avec Joseph dans le mariage spirituel parfait. Et le sacrement, c'est une unité spéciale aussi. Dans le corps de Marie, il y a une multitude de millions, pour pas dire, de son corps, qui est son corps originel d'Immaculée Conception, et maintenant, de son unité spéciale avec Joseph. Donc il y a un lien de nécessité lorsqu'elle engendre, lorsqu'elle est assumée en disant oui, dans la transfération de son cœur, à sa nouvelle maternité, qu'elle va engendrer la résurrection avec le Père, dans le Verbe de Dieu incarné. Il y a une nécessité avec la résurrection de Joseph. Puisqu'il est assumé avec son corps, et ce qui appartient à son unité spéciale avec Joseph. Si l'analogie du pape Jean-Paul II sur la sponsalité, l'époux, l'épousée, est une analogie propre, c'est pas une analogie morale, ou une analogie mystique, ou une analogie symbolique, comme disent certains. Non, non, c'est une analogie propre, comme dit le pape dans son magistère. À ce moment-là, il y a un lien de nécessité pour la résurrection de Saint-Joseph, dans l'instant même où Jésus ressuscite d'entre les morts. Alors il y a quelque chose de nouveau dans le corps de Marie qui apparaît. Elle doit rester 19 ans parce qu'il faut 19 ans pour que le corps dans la terre reprenne vie dans une humanité intégrale, qui établisse son cœur en affinité avec le cœur sacré de Jésus ressuscité. Et bien ça, c'est notre maison, ça, c'est notre univers. On y aspire, ça. On rentre dans l'autel, et de toute notre face, c'est la sainte face, c'est le règne du Sacré-Cœur, et notre bouche, c'est celle qui dévore l'Eucharistie. Et quand on célèbre l'Eucharistie, quand on vit pas de ça, on est à côté de la plaque. Si je puis dire. Iubi et perferi. Permanus sancti angeli tui. Par la main de ton ange de sainteté. In sublime altaretum. Sur l'autel. Sublime, céleste et divin. Du 9e chapitre de l'Apocalypse. Ut quod quiconque ex hac altare participatione, en participant à cet autel, en se dévorant, en se laissant envahir et être l'incarnation de cet autel, du cœur ressuscité de Jésus, Marie, Joseph et Jean. Ut quod ex hac altare participatione, sacro sanctum filii tui corpus et sanguinem sum serimus, alors c'est là qu'ils se nourrissent et qu'ils communient. C'est évident que c'est à ce moment-là qu'il reçoit toutes les bénédictions. C'est à ce moment-là que Dieu dit du bien de l'Église. Qui dit du bien de nous tous dans la Jérusalem nouvelle, dans le monde nouveau. C'est là qu'il engendre le nouvel engendrement de la terre. Au milieu de ceux qui n'en veulent pas et qui continuent. Qui se convertissent pas. Le déluge va anéantir que le déluge nouveau, ouvert par le Saint-Père, par l'Église, du ciel et de la terre, anéantisse en nous tout ce qui nous empêche de vivre dans le corps spirituel, le corps primordial, dans l'assomption du corps, non pas créé, mais engendré. De la Jérusalem glorieuse. Quand on prend le vent, la Bible en copte, en monosyllabique, on traduit, on dit, quelqu'un m'a dit ça ces jours-ci. On connaît la date du début et de la fin du déluge. Eh bien, la date anniversaire de la fin du déluge, c'est 28 avril de l'an 2347 avant Jésus-Christ. Selon la compute biblique. Eh bien, le 28 avril, c'est la Pentecôte. C'est le tridium de la Pentecôte. Et ça, ce sera le 28 avril, très exactement le 28, le 29, je ne sais plus. C'est le 738e jour de l'Eucharistie. Institué par le Saint-Père, Marie engendrant ce chemin libre, sans aucune entrave entre nous, et l'autel d'or, le cœur immaculé de Marie, glorifiant toute l'Église pour ceux qui le reçoivent. Mais ceux qui ne le reçoivent pas continueront leur débauche. 28 mai, oui, je me dis 28 avril, 28 mai. C'est le 18 avril que l'arche a commencé à naviguer. Et le 19 avril, que l'arche a commencé à naviguer de Noé. Il a duré 40 jours et le 29, ça y est, il pouvait poser pied à terre. La fin du déluge.